va passer de suite à Thomas Loué, qui est donc un historien, mais qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Strasbourg. Et il travaille, entre autres, bien sûr, sur OTH depuis de nombreuses années. Et il va donc maintenant nous parler de communication, donc qu'il a intitulé « Les chiens de cité, point d'interrogation, OTH et son fan club, 1984-1990 ». Et je te laisse immédiatement la parole.
Merci Olivier. Alors, j'espère que vous avez bien rigolé jusque-là, parce que ma communication pourrait s'appeler celle. Vous allez avoir des choses qui sont...
M'approcher le micro.
Un peu plus fort.
Le micro. Bien en face. Contre. Oh, non, non, simplement le mettre devant la bouche.
D'accord, je vais le lécher. J'ai un peu changé le titre de ma communication, que j'avais appelé donc « Chien des cités » avec un point d'interrogation en référence à la chanson de TH qui s'appelle « Film d'aliment ». Et au cours de mes recherches, j'ai rajouté « Rat des champs ». Parce que je me suis rendu compte que les choses dont je vais vous parler aujourd'hui, à savoir le fan club de TH, étaient peut-être aussi rurales qu'ils n'étaient urbains, en fait. Donc, pour commencer, je reprends très bien de ce que disait Thierry, qui m'a bien décidé le terrain. Il y a deux villes dans OTH. Il y a ce que j'appelle la sortie d'Afrique. Il y a avant et après 1984. La sortie d'Afrique, c'est quand OTH sort de Montpellier, comme les Homo sapiens étaient sortis d'Afrique il y a 50 000 ans. Et l'histoire que je vais vous raconter, elle se déroule en dehors de Montpellier. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, l'hypothèse de départ, si vous voulez, c'est que la trajectoire d'OTH, elle s'est faite essentiellement en dehors de l'industrie du disque, parce qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup, en fait, et essentiellement aussi en dehors de la presse musicale spécialisée ou non spécialisée, et donc qu'elle s'est faite dans une dynamique endogène, en quelque sorte, faite d'autoproduction, DIY, de fanzine, etc., avec quand même deux apports majeurs extérieurs que je mentionne, qui étaient l'importance de fan music pour la sonorisation et de Garance pour le booking. Voilà. Alors ce que je voudrais essayer de voir aujourd'hui, c'est un petit peu comment ce fan club a participé de cette dynamique endogène, à la fois en retrouvant les structures de ce fan club et en essayant de trouver à travers les structures les gens qui ont aussi contribué à l'alimenter. Voilà. Alors l'idée de départ, c'était une idée très intéressante, c'était une rencontre avec Delphine Poisson, qu'on avait rencontré tous les deux à ce moment-là, c'était à la sortie du film de Joël Jacoby. Et j'avais rencontré Delphine, et en discutant avec elle, Delphine Poisson, c'est la femme de Sam, de Samy, donc qui était le rôle de le sixième membre du groupe, disons. Et elle m'avait dit, tu verras, chez Bertrand et Sissi Poisson, il y a des centaines de lettres des fans de TH, tu vas t'amuser avec ça. Et j'étais d'autant plus réceptif à ce type de discours que j'avais dans ma première vie de chercheur, quand je travaillais sur l'histoire littéraire du 19e siècle, procédé moi-même à ce que j'appelais à l'époque un travail d'épistolométrie, à savoir de traitement quantitatif de la documentation épistolaire. Et j'avais travaillé sur un gros fond de 7000 lettres qui avait été reçu par un critique littéraire très connu à l'époque, dans les années 1890, qui s'appelait Ferdinand Gontier. Vous avez la tête de punk derrière vous, à travers bon, des archives qui étaient au niveau d'acquisition française de la BNF. Et j'avais procédé donc à un travail de quantification de la littérature reçue et procédé à des graphiques comme ça, où vous voyez comment à partir d'un moment un intellectuel peut devenir quelqu'un qui en écrit. Le fait d'écrire à quelqu'un étant un signe de sa médiatisation, si vous voulez. Le problème, c'est que les poissons, Sam dans un premier temps et puis Spi dans un deuxième temps, m'ont annoncé qu'en vidant l'appart de Sissi et Bertrand Poisson, ils ont mis toutes les lettres à la poubelle. Ils les ont mis dans des sacs poubelles, et les sacs poubelles sont partis avec un camion, et évidemment, le monde s'est effondré. Alors, il m'a fallu d'abord m'en remettre, dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, continuer à chercher à travailler différemment. Et à partir de ce moment-là, il se trouve que j'entretenais avec le second manager de TH, Étienne Nimmer, des relations compliquée et ancienne, puisqu'on s'est parlé la première fois dès 2013. Et en gros, Étienne m'avait dit « Je ne te parlerai jamais d'OTH, pour moi, c'est tabou. » Voilà, il ne veut pas parler d'OTH. Et puis finalement, il n'a pas arrêté de m'en parler depuis. Et il se trouve qu'il y a trois éléments qui ont été très importants. Le premier, c'est que j'ai dépouillé un fonds d'archives aux Archives nationales, qui est le fonds du chargé de mission rock de Jack Lang, qui s'appelait Bruno Lyon. J'ai eu une dérobe pour pouvoir... Et il se trouve qu'Étienne Nimmer était partie prenante un petit peu de la mise en place de ce qu'on appelait la commission consultative du rock. Et donc il a grenouillé un petit peu au ministère de la Culture à ce moment-là. Et moi j'avais vu toutes ces archives. Donc Étienne était très intéressé. Dans un deuxième temps, j'avais eu aussi des contacts avec Gilles Castagnac, le directeur actuel de l'IRMA, qui à l'époque était déjà dans le CIR, dans le Centre d'information ROC. Et là aussi, Étienne a beaucoup travaillé avec Gilles Castagnac et ces gens-là. Il a produit même des articles dans un numéro qui s'appelait Profession Manager, où il avait essayé de théoriser ce qu'était la vie d'un groupe, etc. Et puis, troisième élément, donc là aussi, Étienne a été très intéressé par cet aspect de la question. Et puis, troisième chose, c'était qu'il a fait un infarctus il y a un an un peu à Paris, et que je me suis un petit peu occupé de lui, donc ça a un petit peu resserré nos liens. Et donc, l'année dernière, au mois de juillet, j'ai passé 4 jours à Marseille, chez Étienne, avec Steph, et Étienne m'a ouvert toutes ses archives, enfin une partie de ses archives, pas tout, loin de là, mais notamment des documents que je vous présenterai qui sont très intéressants. Donc là, j'ai pu commencer à me replonger dans la question du fan club, malgré la disparition des premières archives. Et puis le deuxième fonds d'archives qui m'a beaucoup servi aussi à travailler le fan club, c'est les documents qu'on donnait Sam. Alors bon, c'est des grosses caisses, c'est fait en trier, etc. Et où j'ai retrouvé aussi pas mal de choses. Donc j'ai abandonné, si vous voulez, la question du traitement quantitatif d'une production épistolaire pour essayer de me recentrer sur d'autres problématiques que je vais vous présenter tout de suite, avec l'idée que OTH, mais ça tout le monde le sait peut-être, c'est un groupe qui se raconte beaucoup, c'est un groupe qui a fondé, je dirais, sa production sur son expérience de vie pour une grande part. Donc évidemment, on y retrouve les chiens, on y retrouve les rats, etc. Et OTH a commis, donc je pense que le morceau a dû être composé en 85, puisque les premiers enregistrements sont ceux de la canale en 86, le cri de ralliement, qui sortira sur 145 tours, avec un peu tout ensuite. Et donc c'est un petit peu un hymne OTH1, si vous voulez, à la manière dont les Bérus aussi ont fait le salut à toi, qui peut peut-être considérer lui aussi comme un hymne, et la manière dont LSD avait produit Salut les copains aussi, avec ce ton injonctif qui relevait aussi de l'hymne. Donc on pourrait refaire une analyse, si vous voulez, du discours au THIA. On retrouve Toulouse, Saint-Étienne, Besançon, enfin bref, des villes marquantes dans l'histoire du groupe, à partir du moment où le groupe a quitté Montpellier, on est après 1984, et un certain nombre de choses, quoi. Alors, en partant de tout ce que je viens de vous dire, la question que je me suis posée, c'est donc de savoir qui étaient ces ETHiens, qui étaient ces gens dont les domaines étaient les HLM, qui étaient ces ETHiens et où est-ce qu'ils habitaient, en fait. Parce que dans la manière symbolique dont la production d'ETH rend compte de son public, on est évidemment à la fois dans l'ordre du symbolique, du fantasme, etc. Mais quel est le rapport qu'on peut établir avec une sociologie de ce monde, quoi. Donc en travaillant en histoire culturelle depuis 30 ans maintenant, pour moi l'essentiel c'est de savoir qui écoute la musique d'OTH, quoi. Et donc c'est la problématique de la réception qui m'intéresse ici essentiellement. Alors je traiterai à travers deux éléments que je vais vous présenter rapidement, les traces et les archives que j'ai pu récupérer dans ces divers fonds, et puis deux, le travail d'exploitation que j'ai pu en faire. Je terminerai avec 2-3 hypothèses qui me semblent encore à travailler. Sachant que tout ça est un travail en cours, hein. C'est un travail qui n'est pas encore achevé, il y a encore plein de choses que je n'ai pas vues, je ne verrai sans doute jamais, mais que j'ai encore l'espoir de voir. Tout ça pour vous dire que je vais vous faire un exposé autour de ces deux fonds, le fonds Limer, le fonds Poisson, avec l'idée que ce sont des fonds aussi très différents et qui, d'une certaine manière, par leur morphologie même, eh bien, sont des indices de cette double économie autour duquel a fonctionné le groupe OTH, à savoir une économie managériale emmenée par Étienne Limer, avec une pensée, disons, de la trajectoire, ou de la carrière des groupes, comme on disait à l'époque, et puis le fonds Poisson, qui, lui, est davantage centré sur ce que j'appelle moi, l'économie domestique, où vous allez voir, on a des choses très différentes. Donc, première chose que j'ai récupérée, c'est un carnet. Un carnet qui s'appelle « Membre du fan club » et en dessous « Homme ». Ça m'a vraiment pas mal intéressé. C'est un carnet qui était tenu par Samy et Bertrand Poisson. Et vous avez là l'écriture de Bertrand. Alors il y a à peu près 205 contacts dedans, essentiellement totalement masculins. Et quand j'ai demandé à Étienne pourquoi il n'y avait pas de femme dedans, je lui demandais s'il y avait un équivalent féminin de ce carnet. Il m'a répondu que non, voilà, c'était essentiellement ce qu'il avait conservé, mais qu'il n'y avait jamais eu de carnet masculin, ou si on avait eu un, comme il est dit en bas, s'il existe, il doit faire une demi-page dans les deux tiers à Montpellier. Voilà. Alors comment se présente la chose? Ben voilà, c'est un petit carnet, un répertoire, hein, et puis avec des noms ben, qu'on retrouve, voilà, des gens. Bon, je n'ai pas masqué les noms parce que je n'ai pas le temps, c'est pas très grave ici, mais on retrouve ben, des femmes d'OTH, David Proulx par exemple, hein, avec son adresse donc, de Strasbourg à Dunkerque, la Musaraigne dont je reparlerai aussi, et, les idons, etc. Donc on a des listes de. Voilà. Deuxième élément sur lequel j'ai travaillé, c'est le carnet d'adresse d'Étienne Mouvard. Ce n'est pas la même chose. Le premier carnet était tenu par la famille Poisson. Ça, c'est le carnet d'adresse d'Étienne, quoi, qui m'a filé. Enfin, le carnet d'adresse professionnel. Ou alors là, vous voyez, on a des items assez différents puisqu'on a les groupes. Donc Parabellum, on a aussi les Gilles Rose, on a aussi des contacts avec les producteurs de festivals, par Armadsen et le Festival de Bourges, on a aussi des labels, des contacts radio, etc. etc. Donc bref, le carnet d'adresse d'un manager de groupe qui fait bien son travail et qui eh bien, va tisser une toile, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc ces deux documents, celui-ci, le deuxième, je ne l'ai pas encore exploité, il faut évidemment le croiser avec le premier étant l'ensemble des contacts du groupe, dont on se demande pourquoi d'ailleurs ce sont des contacts, et c'est ce que j'essaierai de développer un peu à la fin. Le deuxième fond, il est éclaté, il y a une trentaine de lettres, ces centaines de lettres qui sont parties à la poubelle, il en est resté quelques-unes que j'ai retrouvées par hasard dans la caisse, dans une des caisses que m'a filé Sally Poisson. J'en ai des savoureux, ça c'est Eddy qui dit qu'il aimerait bien avoir une photo dédicacée et qu'il faut se dépêcher parce qu'il y a autre chose à lécher que d'éteindre les enveloppes. Voilà, j'ai commis le mot. La petite punkette qui s'appelait Cookie et qui est écrite entre deux plaquettes d'acide aussi. Bon, bref. Des lettres comme ça, on en trouve quelques-unes. Alors c'est toujours la même chose, hein. C'est pour demander des photos, c'est pour demander des dates de concert, c'est pour demander voilà. Une troisième. Alors là c'est Eric. Alors Eric il est très intéressant parce qu'il représente un autre public de TH qui par rapport à ce qu'étaient les lettres précédentes, qui vous avez vu n'ont pas de faute d'orthographe, sont relativement bien qualifiées. Là vous êtes visiblement sur un profil capital scolaire complètement différent. Et vous avez des gens qui écrivent beaucoup plus difficilement, si je puis dire. Donc j'ai retrouvé une trentaine de lettres, comme ça on ne peut pas faire d'analyse quantitative avec ça, mais d'un point de vue qualitatif, ça donne des indications précieuses. Autre élément que j'ai retrouvé aussi dans les archives de Samy, c'est la correspondance entre les membres du groupe et les fanzines, et notamment un certain nombre de brouillons de réponses qui ont été alors, rédigés par SPI essentiellement, mais où ils répondent aux lettres des fanzines, etc. Donc il y avait, si vous voulez, ces deux fonds à partir desquels j'ai travaillé et qui m'ont beaucoup aidé. Alors que faire avec un matériau comme ça? C'est un peu ce que je dois développer maintenant, je ne sais pas combien de minutes qui me reste, 13 minutes, 15 minutes.
Tu peux y aller encore.
Oui, bon, je ne vais pas vous inquiéter très longtemps. La première chose qu'on peut faire, enfin que je fais moi traditionnellement, c'est des cartes. J'aime beaucoup faire des cartes, en fait je suis incapable de les faire, mais j'ai un collègue qui est spécialiste de cire qui les fait très bien. Et là vous avez une première carte, alors c'est pas la plus intéressante, c'est pas la plus parlante, mais de la répartition de l'implantation des fans d'OTH répertoriés dans le premier carnet de Sally Poisson. Vous voyez que ben, y a beaucoup de fans, mais pas forcément à Montpellier. Voilà. Alors cette carte n'a d'intérêt que si on peut la préciser un petit peu, et c'est ce que j'ai pu faire, et finalement. Je l'ai mis en relation avec d'autres cartes que j'avais établies antérieurement, qui étaient la carte des tournées d'OTH que j'avais pu retracer à partir d'archives que le film avait données il y a plusieurs années au départ. Alors, bon, une carte comme ça, elle est assez intéressante parce qu'on y retrouve, si vous voulez, ce que j'appelle la géographie globale d'OTH, avec des implantations très fortes en région parisienne, dans la Loire, et dans le Rhône, autour de Lyon et surtout de Saint-Étienne, il y en a des questions déjà avec Constat tout à l'heure. La grosse implantation aussi dans la Bretagne, dans l'Ouest. Mais voilà. Et puis évidemment. Alors il y a des choses qu'on retrouve aussi, notamment une espèce de diagonale du vide, qui est assez intéressante, qu'on voit bien ici, là, où il y a vraiment une France qui ne connaît pas bien OTH, ou qui en tout cas n'est pas représentée dans ses carnets, et puis évidemment, ce qui constitue, je crois, la grande énigme du rock'n'roll français, à savoir ce quart sud-est, qui est un désert du rock français, c'est assez intéressant à voir autour de Marseille et tout ça. Voilà. Donc, vous voyez que les deux cartes, on peut les faire correspondre un petit peu, mais il y a déjà des choses qui m'avaient fondamentalement interpellé, c'est d'autres lieux d'implantation que je ne voyais pas dans les concerts où OTH passait, des villes où OTH passait peu, des régions où OTH se produisait peu, et notamment le Nord. Ça, c'est assez étonnant, je vais y revenir. Le Nord, on a relativement peu de conseils, mais on a un fan club très bien implanté. Même chose aussi en Alsace. J'avais été très surpris de l'implantation des contacts du fan club dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin, notamment autour de Mulhouse, Colmar, etc. Voilà. Et pour vous donner deux, trois résultats, donc on a une géographie qui en gros recouvre partiellement ces deux concerts. Bretagne, Grand Ouest, région parisienne, Grand Sud-Ouest, île Rhône-Alpes, etc. La petite diagonale du vide qu'on retrouve. Mais en même temps, il y a un truc qui me titillait, et quand j'ai essayé de superposer, non pas en termes de cartes, mais avec le tableau Excel, les concerts et le fan club.
Quelques jours comme toujours, c'est ça.
C comme concert, quoi? F comme fan club.
T'as dit quoi là? Je suis toujours pas ça.
On va essayer de pouvoir reprendre. Allez. Ouais, ça serait bien qu'on puisse reprendre quand même dans une bonne ambiance. Allez, super, merci. Vas-y, Thomas.
La prochaine fois, on a même Momo. Donc là, vous avez les concerts, là, vous avez le fan club, le ville où il y a à la fois une implantation du fan club et des concerts qui sont produits. Vous voyez, ça représente une très petite minorité de mon échantillon. Et donc, il y a a priori une déconnexion, alors que je pensais qu'au contraire, voilà, les villes du fan club seraient plus représentées dans les villes où ils passaient. Là, c'est le contraire. Voilà. Alors, il faut descendre pour comprendre un petit peu ce qui se passe à une autre échelle, qui est l'échelle communale, parce qu'au niveau départemental, finalement, on n'arrive pas à bien saisir les choses. Alors, cette première carte, bon, elle est assez peu lisible comme ça, mais elle vous montre le semi, un petit peu, où OTH s'est étendu. Hein, un peu plus
exemple, c'est commune.
C'est l'échelle communale. Là, ouais. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à travailler au cas par cas sur des départements. Alors, le premier sur lequel je me suis jeté comme avant la fin, c'est Saint-Étienne et le département de la Loire, évidemment. Et là, j'ai eu la grande surprise de me rendre compte que les fans d'OTH, ils étaient à Roanne et ils n'étaient pas à Saint-Étienne. Quoi. Voilà. Et alors, Roanne, je me suis un petit peu posé des questions. J'ai cherché, j'ai retrouvé finalement, via Facebook, un type qui s'appelait, j'avais un nom, Patrick Guy. Et j'ai retrouvé son frère, parce que Patrick est décédé en 1992, donc assez tôt. Mais son frère, si vous voulez, a continué à apporter un peu la mémoire. C'était des musiciens locaux, ils ont joué un rôle important sur Roanne. Et Franck, donc le frère, je lui ai envoyé toute la liste des Rouennais qui étaient dans le carnet de Samy Poisson. Et voilà la réponse qu'il m'a faite sur Messenger. À part un, ce sont tous des potes. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de socialisation collective hein, autour d'OTH qui peut se produire dans certains endroits. Et alors, plus j'ai essayé de chercher mais comment on arrive à former un petit groupe, comment ces gens se retrouvent dans ce carnet, Franck m'a dit « Ah, c'est compliqué, mais va voir un type qui s'appelle JC, c'était un grand pote de mon frère, etc. » Donc, j'ai retrouvé le JC en question, qui ne voulait pas trop me parler au début, et puis finalement, je lui ai dit, il m'a dit, ah, c'est Alain Picon qui m'a dit que, voilà, t'étais un type bien, ton boulot était intéressant, et donc je voulais me parler. Et en fait, ce qui s'est passé, la chose est la suivante, c'est que l'oncle et la tante de JC avaient un terrain en Ardèche, étaient amis avec Alain Picon. Alain Picon allait passer ses vacances d'été, et le petit JC, qui avait 15-16 ans, descendait de Roanne, passer des vacances avec son oncle et sa tante, et via Alain Picon, et ben finalement il a ramené OTH à Roanne. Et les premières fois où OTH a été entendu à Roanne, c'était sur Radio Roanne. JC le raconte sur le site Rock à Roanne que Franck avait fait il y a quelques années. Et en gros, les deux, donc Patrick et JC ont passé des cavernes modernes à une émission de radio. Je n'ai pas le temps de développer l'anecdote, c'était juste après une émission avec des scouts et un curé. Et ils ont fait passer des cavernes modernes. Quoi. Et voilà, ça crée un petit buzz sur Radio Roanne. Deuxième cas de figure, là, c'est la région parisienne, évidemment. Et ce qui est frappant, bah, c'est pas rien en 9-3, mais beaucoup l'Essonne. Alors l'Essonne, c'est un petit peu le terreau sur lequel est né Gougnaf. L'Essonne, c'est une ville, c'est un département important dans l'histoire du rock parisien, je pense. Et voilà. Troisième cas de figure, je vais avancer un petit peu parce que je pourrais vous les développer de 90 départements comme ça, mais je ne vais pas le faire. C'est le Nord, et là encore, le Nord est intéressant parce qu'on voit bien que la capitale culturelle n'est pas la capitale OTHIR. Le Nord, tout se passe à Valenciennes. Et même pas à Valenciennes, mais dans la banlieue de Valenciennes, à Anzin, à Famars, à Beuvrage, à Rennes, enfin bref. Valenciennes qui est déjà un petit peu aux marges, si vous voulez, de la société française et du territoire français, les OTH sont aux marges de la marge. Mais en gros, la marge de la marge, ça a toujours été un petit peu la marque de fabrique d'OTH. Dernier cas de figure, deux derniers cas de figure que je vais développer rapidement, c'est Lyon. Et là, c'est pareil, on retrouve à peu près les mêmes tendances, à savoir que Lyon s'est extrêmement polarisé sur la ville. Mais quand on regarde dans le détail, c'est le 8e arrondissement de Lyon, et non pas la place Bellecour, où vous retrouvez le fan club de TH. Voilà. Dernier cas de figure, là aussi, c'est la Loire Atlantique et autour. Et là, on voit très bien ce que j'appelle le semi-rural hein, qui apparaît, avec des petits bleds comme Derval, Lagacilly, Mouchan, des petites villes très emprises sur le milieu rural comme Cholet, etc., etc. Alors, quand on synthétise un petit peu ça, eh bien, on se rend compte que la taille des communes d'implantation du fan club de TH, c'est en fait des communes de petite taille. La taille médiane des communes de TH, c'est 13 500 habitants. Vous avez en gros les deux tiers des communes qui font moins de 25 000 habitants. Bref, le public où était implanté, enfin, là où était implanté le fan club de TH, c'est tout sauf les grandes villes. C'est des petites villes, c'est des villes moyennes, c'est des petits bourgs. Le dernier que je citerai, c'est Mésidon-Canon. Je remercie beaucoup Christophe Pécou de m'avoir épaulé pour retrouver des gens qui appartenaient à cette association, là encore tirée du carnet de Samy. Hein. C'est l'association qui s'appelle la Musaraigne, qui a été fondée au début des années 80. Et grâce à Christophe, j'ai pu retrouver donc à la fois Jimmy, qui était le vice-président de l'association, alors lui qui m'a raconté sa vie, en gros qu'à 17-18 ans, il a taillé la route. Il est parti à Berlin, il est parti à Amsterdam, il est parti... Et puis il s'est retrouvé à Montpellier, et comme il le dit, je traînais à Montpellier, j'ai rencontré toute la faune rock à l'époque, et effectivement, je suis rentré en Normandie, on a essayé d'organiser un concert d'OTH, qui n'a pas pu se faire parce que ça ne collait pas au niveau des dates, parce que les tarifs, enfin les cachets d'OTH étaient sans doute trop élevés pour l'association, etc. Mais ils avaient quand même fait ce fanzine que Christophe m'a envoyé, Blasphème, rien que le titre est déjà tout OTHien, avec évidemment les shérifs OTH au centre, etc., etc. Bref, pour ne pas m'attarder trop longtemps, je résumerai en disant qu'on a donc un recouvrement global de la géographie OTHienne entre les tournées et l'implantation du fan club, mais vous l'avez vu, dès qu'on descend à l'échelle locale ou à l'échelle départementale, des décalages sensibles, une forte prégnance de la France des banlieues, de la France périurbaine, voire même du sud rural, et finalement très peu de grandes villes. Alors, concernant les deux dernières remarques, je crois qu'on peut en conclure que finalement, ces remarques sont à l'image du club, du groupe. Le local, Thierry en a parlé tout à l'heure, ce fameux local de répétition, il est perdu au milieu des villes. On est à Saint-Jean-de-Védas, dans une commune suburbaine, où on est dans un milieu à la fois urbain et en même temps infecté par le rural et le semi-rural. En termes de, quand je reprends l'analyse que je ne vous ai pas faite devant vous, des lettres, eh bien, on est avec des capitaux scolaires extrêmement diversifiés, extrêmement variés, ce qui tendra à prouver que le punk est sans doute un phénomène relativement interclassiste, mine de rien, et qui irait donc de l'école de la rue à l'université. J'aurais pu reprendre l'exemple d'un carquois avec le copain de David Brook que j'avais retrouvé, donc Jean-Luc, qui était déjà, à l'époque où il écoutait l'OTH, était déjà instituteur, était déjà professionnellement inséré, même s'il demeurait musicien, même s'il demeurait un des acteurs de la scène locale. Quoi. Et puis à côté de ça, vous avez effectivement le profil plus podcastien ou RVC qui suivront aussi les ODH un peu plus tard, dans la fin des années 80. Pour les remarques 1 et 2, alors là, je crois que c'est un peu plus compliqué, mais finalement, la conclusion à laquelle j'arriverai est la suivante, c'est que la carte du fan club d'ODH, elle vient en fait combler les blancs de la carte des tournées d'ETH. J'emprunte l'expression « combler les blancs de la carte » à une collègue strasbourgeoise qui avait fait un colloque là-dessus sur la construction les enjeux de la construction cartographique. Je crois que s'il n'y a pas finalement d'implantation importante du fan club d'ETH dans l'Hérault ou à Montpellier, c'est parce qu'il n'y en a pas besoin. Parce que le fan club d'ETH, finalement, il était au local, il était là tous les samedis soirs. Alors qu'en revanche, après 1984, quand ETH va connaître, je dirais, une destinée nationale, va s'adresser à d'autres publics, va aller jouer loin, eh bien, dans un contexte, encore une fois, de concerts rares, hein, tu l'as dit, Thierry, de concerts rares, où on fait 100, 200, 300 km peut-être parfois pour aller voir le groupe qu'on a envie de voir, eh bien, la problématique spatiale elle est beaucoup plus importante. Quoi. Souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ces membres de ces contacts sont souvent des membres de fortes personnalités locales, si vous voulez. Soit des responsables d'assaut, soit des musiciens, fondateurs de groupes, etc., etc. C'est le cas de Jimmy, c'est le cas de Jean-Luc, c'est le cas de Franck ou de Patrick Guigue à Rouen, j'aurais pu en citer d'autres. Mais l'importance de ces figures locales, pas des gloires locales, mais des figures locales, qui sont des vrais introducteurs, sont des vraies dynamiques, qui ensuite, par capillarité, il n'y a rien de macronien, mais par capillarité, vont en quelque sorte diffuser de la connaissance, vont diffuser de la musique, etc. Il y a des lieux, le DIC par exemple, peut-être un café de Dunkerque où se retrouver toute la petite faune rock ou para-rock dunkerquoise, le foyer de la SNCF, des jeunes de la SNCF de Mézidon-Canon a joué un rôle essentiel. Mézidon-Canon, c'est à la fois le monde rural, mais c'est la SNCF implantée un peu au milieu des champs à 25 km de Caen. Donc c'est ce que j'appellerais plus tard le fumel en quelque sorte. Hein, voilà. Et puis, donc de fortes personnalités, et puis simplement la simple existence de ce fan club en soi est extrêmement intéressante, parce que, j'ai pas eu le temps de développer tout cet aspect-là, sauf à partir des Carouanais, mais on se rend compte de l'importance des micro-transmissions, des micro-connecteurs, de ces petits neurones qui, dans des lieux extrêmement divers, dans des univers sociaux extrêmement divers, par le bouche à oreille, par la rumeur, par les on-dit, eh bien, vont quelque part suppléer tout ce qui aurait pu être le relais de la presse, par exemple. Alors, les fanzines, j'étais au courant, mais chercher des articles sur le DH dans Rocket Folk ou dans Best, vous aurez du mal à en trouver. Le seul journaliste national qui a soutenu Best, c'est François Ducret, et à part lui, personne ne les a vraiment suivis. Donc vous voyez qu'il a fallu passer par d'autres réseaux, par d'autres canaux, etc. Et de ce point de vue-là, cette micro-transmission, cette importance de l'interconnaissance, cette importance d'une interaction individuelle, a joué un rôle important. L'existence propre du fan club aussi, parce que c'est à double sens, si vous voulez. Non seulement le fan club projetait la présence d'ODH là où ODH n'était pas, mais à l'inverse, centralisait à Montpellier aussi, au Val d'Argent, à Ville-Morin, chez monsieur et madame Poisson, eh bien, toutes les lettres de ceux qui écrivaient au fan club. Alors, j'en ai retrouvé qu'une trentaine, mais j'ai eu Spi au téléphone cette semaine, et par hasard, il me dit, mais tu sais, mon père s'était devenu le confident d'un certain nombre de ces fans qui cherchaient à maintenir un lien. Et voilà, donc il y a eu certainement ce rôle de ralliement épistolaire qui a pu constituer le fan club. Et je pense que le pôle de ralliement épistolaire a joué un rôle peut-être plus important que le cri de ralliement qui n'est peut-être jamais devenu l'hymne que ETH avait voulu construire en 1986. Quoi. Donc, les contacts du fan club comme relais, les connexions en dehors des lieux de passage, etc., constituent des éléments essentiels dans cette toile qui s'est citée. Alors, comment ça se produisait au quotidien? Je vous donnerai qu'un exemple. Étienne Imbert avait une théorie extrêmement spéciale de l'affichage. Il envoyait, quand les concerts étaient prévus, un certain nombre d'affiches dans les villes pour qu'elles soient collées. Donc les organisateurs du concert s'engageaient à coller des affiches à tel endroit, etc. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'OTH faisait intervenir d'autres gens aussi pour aller voir si les affiches avaient été bien collées. Et donc ces gens, voilà, ces contacts servaient aussi, si vous voulez, à l'appareil, je dirais, de propagande du groupe. Donc, pour en terminer, je suis effectivement dans un travail en cours qui n'est pas achevé, je vous en ai montré une petite partie, hein, mais dans ce que Roger Chartier, donc notre père à tous en histoire culturelle, appelle ce schéma classique production, diffusion, réception, hein, la réception étant ce déclinant en modalité spécifique d'appropriation des objets. Et bien dans ce schéma donc bien connu, dans ce soit l'univers industriel ou les cultures reconnues, hein, il est beaucoup moins effectivement dans des milieux informels où les structures sont beaucoup moins repérables. Donc ce travail sur le fan club que je suis en train de mener, hein, c'est finalement une possibilité d'analyse des modalités de la diffusion, donc de ce point central entre réception et production, qui informe à la fois donc, par ses modalités d'appropriation de biens spécifiques en aval et qui informe aussi en amont par la dynamique dans le sens du groupe. J'entends par production du groupe, non pas seulement la production musicale, mais tout ce que le groupe a produit. Hein, ça va de concerts à des attitudes, à des interviews, à de l'image, à du graphisme, etc., etc. Et avec ces espèces de neurones, en quelque sorte, eh bien, on a un point central qui permet de passer, je dirais, de ce qui est une production montpelliéraine dans la mesure où l'OTH n'a jamais quitté Montpellier, mais la production montpelliéraine d'un groupe montpelliérain vers des territoires qui n'ont plus rien à voir, évidemment, avec la terre, le berceau initial dans lequel ils sont nés. Donc dans ma thématique centrale, si vous voulez, qui consiste à étudier cette sortie d'Afrique, eh bien, cette construction du fan club, finalement, constitue un enjeu central dont je n'ai évidemment pas tiré encore toutes les conséquences, mais toutes les conclusions. Voilà, j'espère que vous avez beaucoup moins rigolé qu'avec Thierry. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté.